midi sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et c'est une émission spéciale, puisque cette émission est la première qui est en lien avec l'INSERM, puisque nous venons d'établir un nouveau partenariat éditorial. Donc, une fois par mois, nous aurons le plaisir de recevoir un représentant de l'INSERM. Et je reçois aujourd'hui le professeur Gaël Fromont. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin pathologiste au CHRU de Tours et enseignant-chercheur à l'Université de Tours. Et le rapport avec l'INSERM, c'est que vous êtes aussi directeur adjoint de l'unité de recherche INSERM UMR 1069 Nutrition, Croissance et Cancer. Et je mentionne tout de suite à nos auditeurs qu'il y a là, avec nous dans le studio, notre stagiaire Quentin Rochou. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors Quentin, je crois que tu avais déjà quelques questions pour le professeur Gaël Fromont.
Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle à l'Université de Tours ?
Alors, bonjour Quentin. Mon rôle à l'Université de Tours, j'enlève le casque, est un rôle d'enseignant à la faculté de médecine de Tours et également pour les étudiants en sciences qui sont dans le parcours Master 2 à l'Université de Tours. L'université est également impliquée dans la tutelle de notre unité de recherche INSERM UMR pour unité mixte de recherche nutrition, croissance et cancer U1069.
Alors, professeur Fromont, peut-être que vous voulez préciser pour nos auditeurs en quoi ça consiste d'être professeur. Quel est ce statut ? Est-ce que c'est un grade ?
Professeur, c'est un titre universitaire qui concerne pas seulement les médecins, mais également les enseignants à l'université, et qui est effectivement un grade d'enseignant après celui de maître de conférence. Donc ça n'a rien à voir avec le fait des médecins, ça a rapport avec ma fonction à l'Université de Tours, qui est mon principal employeur.
Voilà, et vous êtes aussi médecin pathologiste. Est-ce que vous voulez expliquer en quoi consiste cette spécialité ?
Alors effectivement, je dirige le service de pathologie. En français, on dit anatomie et cytologie pathologique. C'est un peu long comme nom. C'est un service qui n'est pas en relation directe avec les patients, qui fait partie du pôle de biologie du CHRU de Tours. Et nous avons comme fonction, nous autres pathologistes, de faire des diagnostics de maladies sur des prélèvements humains, qui soient de taille conséquente, comme des pièces opératoires, ou de petite taille, comme sur des biopsies. Alors, toutes les maladies ne nécessitent pas d'avoir recours au pathologiste pour faire le diagnostic. Par exemple, un infarctus du myocarde, les cliniciens, les médecins vont faire le diagnostic de ce type de maladie sur des signes cliniques, sur de l'imagerie, sur de la biologie, et pas du tout grâce au pathologiste. Par contre, tous les diagnostics de cancer doivent être effectués par des médecins pathologistes.
Donc ça veut dire, par exemple, que dans un service hospitalier, on peut faire un prélèvement, une biopsie, et cette pièce anatomique, ce morceau, est envoyé dans votre service pour des analyses.
Tout à fait. Donc ça peut aller du petit fragment de quelques millimètres, par exemple une biopsie de peau, une biopsie digestive, à des prélèvements beaucoup plus importants, notamment des pièces opératoires qui sont prélevées au bloc opératoire.
Voilà, et donc évidemment tout ceci est encadré, il y a pas de, parce que c'est toujours une inquiétude aussi peut-être de la population de se dire mais qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces pièces anatomiques ?
Alors ces pièces anatomiques, on va les traiter selon différents modes de traitement. En général, on les fixe ou on les congèle. On va les couper en tranches fines, on va les inclure dans de la paraffine pour ce qui a été fixé, je ne vais pas faire trop de technique. On va les couper en tranches fines qu'on va mettre sur des lames de verre, et ces tranches fines, on va les colorer par plein de techniques différentes, du plus simple au plus compliqué, et ce sont ces lames de verre que l'on va examiner au microscope pour faire le diagnostic de maladie.
Voilà, et il faut dire aussi que votre thèse de doctorat sur le cancer de la prostate. Est-ce que vous voulez en dire un mot et nous expliquer quel est le lien en fait avec ce service d'anatomie pathologie ?
Alors, ma thèse de doctorat de sciences, puisque quand on est médecin et enseignant-chercheur, on a deux doctorats, un doctorat en médecine, puis ensuite un doctorat en sciences. Généralement, c'est dans ce sens-là que ça marche. Et effectivement, c'est cette expertise, j'espère, que j'ai acquise depuis maintenant plus de 20 ans dans le cancer de la prostate, à la fois au niveau clinique, hein, au niveau du diagnostic des maladies, et donc de la connexion que j'ai avec les autres acteurs du CHU qui prennent en charge ce type de patients, mais également au niveau de la recherche, au niveau de la recherche spécifique que je développe avec mes collègues au sein de l'unité 1069. C'est vraiment ce thème qui, pour moi, va faire le lien entre les deux structures, l'unité mixte de recherche et le CHRU.
Voilà, alors peut-être pour nos auditeurs à nouveau, hein, je rappelle que La Méridienne c'est aussi une émission de médiation culturelle et scientifique. Alors la prostate ça concerne les hommes, mais est-ce que vous voulez préciser de quoi il est question ?
Alors la prostate c'est une petite glande hein, qui se situe sous la vessie, qui n'existe que chez les hommes, pas chez les femmes, et qui malheureusement est le siège d'un cancer extrêmement fréquent chez les hommes, hein, qui est globalement le plus fréquent dans les pays industrialisés. Je dis dans les pays industrialisés parce que cela survient chez des hommes d'âge moyen à élevé, hein, en général après 50 ans quand même, et les pays, certains pays en voie d'industrialisation, une durée de vie, malheureusement pour les hommes, parfois trop courte pour voir apparaître ce type de cancer. Donc dans le pays industrialisé, c'est le cancer le plus fréquent. Donc un gros, gros problème de santé publique.
Voilà, et il se trouve aussi qu'à Tours, il y a un lieu spécifique pour cette prise en charge. Il y a l'Institut de la prostate à Tours. Est-ce que ça n'existe qu'à Tours ou est-ce que ça existe à l'échelle nationale, ces instituts ?
Après, l'Institut de la prostate, l'Institut universitaire de la prostate, hein, qui est une structure qui a été développée de façon multidisciplinaire au CHU de Tours, est propre à Tours, mais dans certains autres CHU, il y a une structuration, on peut dire, à peu près équivalente pour une prise en charge optimale dès le diagnostic, hein, des hommes présentant ou suspectent d'avoir un cancer de prostate. Alors quand je dis multidisciplinaire, c'est extrêmement important parce que ce soit au niveau recherche ou au niveau soins, au niveau clinique, il est majeur pour la prise en charge des gens et pour une recherche de qualité d'être multidisciplinaire, c'est-à-dire de faire intervenir un nombre important d'acteurs qui chacun dans son expertise vont apporter quelque chose. Puisqu'on parle de l'Institut universitaire de la prostate, hein, ça inclut bien entendu des urologues qui sont aux premières lignes concernant ce type de maladie, puisque ce sont les spécialistes cliniques de la prostate. Mais donc le service d'urologie du CHU de Tours, dirigé par le professeur Franck Bruyère, mais également des pathologistes. Je suis moi-même en tant que chef de service du service d'anapath de Bretonneau, puisqu'il y en a deux, un Trousseau, un Bretonneau, et également de l'imagerie médicale, de la radiothérapie, de l'oncologie médicale. Donc tous ces acteurs ensemble vont chacun dans leur domaine apporter quelque chose dans la prise en charge, le diagnostic bien évidemment, mais également la prise en charge thérapeutique des patients avec un cancer de prostate. Donc cette structuration autour de l'Institut universitaire de la prostate a pour but bien entendu d'avoir une meilleure prise en charge, mais également de pouvoir proposer aux patients des inclusions dans des essais cliniques, hein, puisqu'il y a pas mal de nouveaux traitements qui sont en essai actuellement dans ce type de cancer. Et il est majeur pour pouvoir bénéficier et surtout aussi pour évaluer ces traitements que les patients rentrent dans ce qu'on appelle les essais cliniques et thérapeutiques.
Merci professeur Gaëlle Fromont pour cette présentation de l'Institut de la prostate. Alors peut-être, est-ce que vous voulez expliciter s'il y a, donc ça appartient au CHRU cet institut, et est-ce qu'il y a un lien avec votre unité de recherche INSERM ?
Alors l'Institut universitaire de la prostate est essentiellement axé sur l'accès aux soins, la facilité de l'accès aux soins. Par exemple, il y a un numéro unique, hein, pour les patients qui souhaitent appeler pour les médecins traitants aussi, qui souhaitent avoir des renseignements pour leurs patients, et pour d'autres médecins spécialistes, comme les urologues, qui ne feraient pas partie du CHU. Donc, facilité d'accès à l'information, facilité d'entrée dans les protocoles de recherche clinique pour les patients, mais ça concerne essentiellement la recherche clinique. Ce que nous faisons au sein de l'unité INSERM 1069, c'est davantage de la recherche fondamentale et de la recherche translationnelle. On viendra tout à l'heure sur la recherche translationnelle, qui va, elle, se baser, cette recherche translationnelle, beaucoup sur du matériel de prélèvement de patients qui ont un cancer de prostate et qui ont signé un consentement éclairé pour qu'on puisse utiliser le matériel tumoral issu de leur prostate qui aura été réséqué chirurgicalement pour des protocoles de recherche translationnelle. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir étudier directement ce qui se passe dans la tumeur humaine.
Voilà, donc peut-être que vous voulez apporter quelques précisions sur cette unité INSERM, parce que là, vous avez explicité le rapport, ou en tout cas les liens avec l'Institut de la prostate, mais plus généralement, cette unité INSERM, elle a d'autres spécialités.
Bien entendu. C'est une unité mixte de recherche, on a dit, hein, qui a comme tutelle l'INSERM. L'INSERM, c'est quoi ? C'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vous voyez, le lien direct est fort avec non seulement les cliniciens, les chirurgiens, mais les patients aussi, surtout les patients. Et l'autre tutelle, c'est bien entendu l'Université de Tours. C'est une université dont le thème avec globalement deux mots-clés principaux, cancer et nutrition. Et dans la nutrition, on a vraiment une expertise, nous, sur les lipides en général, mais surtout, comme on le voit, certains lipides de l'alimentation. Et le lien que peuvent avoir ces lipides avec les cancers. Donc, quel est le rôle des lipides dans l'agressivité des cancers ? Donc, pas seulement des lipides qui seraient promoteurs ou inducteurs de cancer, mais également certains lipides qui peuvent être protecteurs de certains cancers. Hein. Les lipides n'ont pas toujours le mauvais rôle, on va peut-être le voir tout à l'heure. Le rôle des lipides également sur la dénutrition liée au cancer, puisque certains cancers vont être associés à une dénutrition très importante du patient, qu'on appelle de l'hôte, par rapport au cancer, et que l'on appelle la cachexie cancéreuse. Et il y a tout un groupe de chercheurs dans notre unité qui vont davantage travailler sur l'implication, l'interaction des lipides avec cette cachexie cancéreuse. Donc, ils ne vont pas s'intéresser au cancer en lui-même, mais plus à l'hôte. Et puis, on va aussi étudier l'impact que peuvent avoir ces lipides comme adjuvants de certains traitements anticancéreux. Donc, tous les champs d'action possibles des lipides sur le cancer vont être pris en compte.
Voilà, donc adjuvant, c'est-à-dire que ça potentialise l'effet d'un traitement ?
Oui, par exemple, on sait que dans certains cancers, par exemple dans le cancer du sein, hein, on peut avoir une résistance de certains cancers à certains traitements, notamment la chimiothérapie. Hein, parmi les traitements standards, on va dire non ciblés du cancer en général, hein, on note en tout cas pour les cancers qui nous intéressent, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Après, il y a tout un tas de thérapies ciblées, novatrices, qui sont extrêmement importantes. Certains de ces traitements, comme la chimiothérapie dans le cancer du sein, et dans d'autres types de cancers également, vont pas forcément être efficaces chez tout le monde, avec une certaine résistance. Et on a montré dans notre unité que certains lipides pouvaient potentialiser éventuellement l'effet de certaines chimiothérapies, donc les rendre plus efficaces.
Alors peut-être un peu d'histoire sur ce lien entre alimentation, lipides et cancer. Qui a mis en évidence le lien, l'interaction qu'il pouvait y avoir en fait entre le...
Bon, il y a quand même quelques unités de recherche en France hein, qui travaillent sur le lien alimentation-cancer, beaucoup. Nous, notre particularité, c'est s'axer sur les lipides. C'est important. Et l'unité est née maintenant il y a plusieurs années, je ne fais plus trop le compte, par l'association de deux chercheurs, le professeur Philippe Bougnou, qui est à la retraite maintenant, qui est un oncologue médical, donc un médecin, et le professeur Charles Coué. Ce sont eux qui ont créé cette unité INSERM à Tours.
Voilà, donc c'est quand même un lien qui a été mis en évidence il y a quelques années.
Oui, bien entendu.
Voilà, il y a quand même un nombre.
Oh, ce lien est mis en évidence. Et puis le lipide le plus connu, en tout cas pour le grand public, hein, c'est vraiment les acides gras polyinsaturés oméga-3 qui ont été montrés dans certains types de cancers, en tout cas comme étant protecteurs.
Alors, en fait, comment, peut-être justement pour préciser à nos auditeurs, comment le corps humain stocke les lipides et à quoi sert le tissu adipeux, en fait, dans le corps, à quoi ça sert ?
Alors, les lipides ne sont pas stockés que dans le tissu adipeux, hein, bien entendu. Nous, comme on s'intéresse à l'alimentation, on va s'axer, mais pas que, sur certains lipides qui ne peuvent être apportés que dans l'alimentation. Hein. Donc dans les lipides, globalement, je ne vais pas vous faire un cours sur tous les types de lipides, mais nous, on s'intéresse beaucoup aux acides gras. On s'intéresse aussi au cholestérol. Dans notre unité, il y a également des chercheurs qui vont s'intéresser, ceux qui font plus dans du métabolisme, qui vont vraiment aller fouiller comment ça marche dans la cellule, notamment dans la cellule cancéreuse, à certains types de lipides qui sont les cardiolipines. Et puis, on a aussi des lipides de synthèse, c'est-à-dire qui n'existent pas, qu'on va synthétiser, que notamment les hétérolipides. Mais, historiquement, c'est vraiment les acides gras sur les types de lipides sur lesquels on travaille depuis le plus longtemps. Donc, on sait qu'il y a des acides gras, différents types d'acides gras. Hein. Les acides gras saturés, c'est tout ce qu'il peut y avoir notamment dans la charcuterie, qui sont pas forcément très protecteurs de cancer, ça c'est clair. Ils seraient plutôt promoteurs. En tout cas, ils sont associés, on le sait, de façon plus certaine à certaines maladies cardiovasculaires. Et puis après, il y a les acides gras dits polyinsaturés que l'on va séparer en deux familles, les oméga-3 et les oméga-6. Donc historiquement, notre unité a travaillé beaucoup sur les oméga-3, protecteurs de cancer et le cancer du sein, pour essayer de comprendre comment ces oméga-3 pouvaient rendre les cellules tumorales moins agressives éventuellement. Depuis quelque temps, nous on s'intéresse aussi à d'autres acides gras polyinsaturés, que sont les oméga-6, et notamment dans le cancer de la prostate, et c'est ce qui est globalement le corps de nos premières études qu'on a fait il y a quelques années au sein de cette unité sur le cancer de la prostate.
Alors on voit là qu'il y a un travail scientifique très sérieux hein, autour de la recherche autour de ces oméga, et pourtant on voit aussi que, disons que l'industrie agroalimentaire s'est saisie de ça pour vendre des produits où on trouvait de fabuleux oméga, ceci ou cela. Alors, c'est de l'intox ou c'est sérieux, ces préoccupations ?
Après, je pense qu'il faut être un petit peu lucide. On ne va pas soigner le cancer qu'avec des oméga-3, c'est clair. Hein, ni même avec d'autres types d'oméga, puisqu'il n'y a pas que les oméga-3 dans la vie. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un apport équilibré dans les différents types de lipides. Et on a montré que c'était vraiment peut-être plus qu'un acide gras pris séparément, quelque chose d'un apport équilibré en lipides et notamment en acides gras, une sorte de balance hein, qu'on a appelé le lipidome, qui était sans doute plus important que d'aller regarder un acide gras l'un après l'autre. Donc on va pas soigner ni prévenir un cancer par une consommation variable en lipides. Par contre, effectivement, ça peut sans doute aider pour moduler l'agressivité de certains types de cancers, hein, parce que les cancers, on va peut-être en reparler, sont extrêmement hétérogènes hein, d'un patient à l'autre, donc ce qu'on peut préconiser pour un sera peut-être pas bon pour l'autre. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et donc voilà, c'est cet équilibre qui est vraiment extrêmement important, à la fois dans l'alimentation, mais pas que, également dans le mode de vie, et un des facteurs protecteurs du cancer, ça on le sait maintenant, et de tous les types de cancers, c'est l'activité physique.
Bien sûr. Alors justement, professeur Fromont, est-ce que vous voulez expliquer ce qu'est, est-ce qu'il y a un état de cancer en fait ? Qu'est-ce que c'est concrètement un cancer ?
Qu'est-ce que c'est un cancer ? Bien, c'est une cellule normale qui va se modifier sous l'influence de modifications de son génome, le plus souvent au départ, hein, soit de modifications qu'il va avoir héritées de son ascendance, hein, de ses parents, soit de modifications qu'on va retrouver que dans la cellule tumorale elle-même et qui seront liées uniquement à cette cellule. Donc on va associer un cancer à des modifications du génome de la cellule, hein, modifications génétiques, c'est-à-dire des modifications qui sont liées que à la cellule tumorale elle-même. Et maintenant, de plus en plus, on sait que ces modifications vont être contrebalancées, vont être modifiées par une interaction avec l'environnement. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interaction gène-environnement. Et quand on parle d'environnement, on parle de quoi ? Soit du micro-environnement qu'il y a autour des cellules tumorales, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le cancer qui ne sont pas des cellules tumorales. Il n'y a pas que des cellules tumorales dans un cancer. Il y a plein d'autres cellules qui vont soit lutter contre les cellules tumorales, soit qui vont coopérer pour augmenter l'effet néfaste des cellules tumorales, c'est ce qu'on appelle le micro-environnement. On sait maintenant que ce micro-environnement, il a un rôle majeur, hein, dans le développement du cancer, ce qu'on appelle la cancérogénèse, et dans la progression de la tumeur. Et puis, il y a aussi l'environnement, pas que le micro, le macro. Tout ce qu'on subit, tout ce qu'on a autour de nous dans la vie de tous les jours, et qui peut avoir un impact sur le développement d'un cancer, ou sur son agressivité. Alors, là-dedans, c'est essentiellement la nutrition. L'alimentation, c'est vraiment le facteur majeur du macro-environnement. Parce que dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on a ? On a tout ce qu'on mange, hein, globalement. On parlait des lipides, hein, les trois nutriments, lipides, glucides, protéines. Et puis, on a aussi tout ce qu'on met dedans et qu'on ne désire pas forcément manger, notamment les polluants.
Voilà, donc. Par exemple, admettons que dans une famille, il y ait plusieurs cas sur plusieurs générations de cancer de l'intestin. Ça veut dire que une personne a une prédisposition à avoir ce type de cancer, peut-être. Et donc le fait, par exemple, de consommer exclusivement des produits peut-être de bas de gamme, ça peut influencer, en tout cas peut-être développer plus favorablement ce type de cancer. Parce que cette personne a dans son historique familial des personnes qui ont présenté ça.
Alors, je ne vais pas vous donner l'exemple du cancer du côlon, plutôt dans celui du cancer du sein, hein, puisque c'est quelque chose qui est assez médiatisé. Il y a des mutations dans certaines familles d'un gène qui s'appelle BRCA2. Et quand il est muté et transmis de mère en fille, mais également de père en fille et de mère en fils, hein, puisqu'on... il n'y a pas que les femmes en fait qui peuvent être sujets à ça, bien entendu. On va avoir une prédisposition très importante à avoir un cancer du sein, et ça, malheureusement, en dehors de tout apport ou de toute protection de l'environnement. Hein, quand on a vraiment ces mutations familiales, le cancer peut se développer, on va dire, tout seul. Il n'a pas besoin d'aide du micro-environnement ou de l'environnement pour se développer. Et c'est pour ça, on va donc parler de cancer familial et on va rechercher donc dans la famille de ces personnes. On va les suivre de façon très importante pour détecter au plus tôt, le plus tôt possible dans son évolution, les cancers. Que ce soit des cancers du sein, mais on sait maintenant aussi que les cancers de la prostate, certains cancers de la prostate, peuvent être impactés par ces mutations BRCA2.
Donc voilà pour cette transmission génétique, mais est-ce que, par exemple, le cadre de vie peut aussi avoir une influence sur le développement d'un cancer ? C'est-à-dire, par exemple, des personnes qui vivent dans des conditions difficiles ou dans un environnement très stressant, est-ce que ça peut aussi influencer, ou en tout cas augmenter le développement d'un cancer ?
Alors, ce sont les études les plus difficiles à faire. Ces études de recherche d'interaction entre la génétique et l'environnement. Parce que, donc on sait, je vous parlais de l'activité physique tout à l'heure, hein, il y a des études d'association, qu'on appelle les études d'épidémiologie, qui ont vraiment montré que dans certains types de cancers, le fait de pas avoir d'activité physique, ou même dans certains types de cancers, l'obésité avait un effet néfaste sur le développement de certains cancers, mais surtout sur l'agressivité de certains cancers, parce qu'on va le voir pour la prostate, le développement c'est pas vraiment un problème. Ce qui compte c'est l'agressivité. Et puis, par exemple, également, ces études d'épidémiologie ont montré que dans certains cancers, comme le côlon, le fait de consommer beaucoup de fibres avait un effet protecteur hein, sur le développement et la progression des cancers. Donc, effectivement, il y a des modes de vie, de vie et d'alimentation qui peuvent également effectivement influer sur le développement tel ou tel type de cancer. Mais c'est pas forcément évident à évaluer à l'échelon individuel parce que chaque patient va pas du tout avoir le même impact par rapport à ces facteurs extérieurs. Hein. Pour certains, ça va être un effet qui va être beaucoup plus important que pour d'autres. Je vous donne un exemple. Une molécule externe qui aurait un effet néfaste sur le développement de cancer. Mais c'est toutes ces molécules, quand elles arrivent dans l'organisme, elles vont être métabolisées. Et ces métabolismes se font sous l'action d'enzymes. Mais l'effet des enzymes va être sous l'influence de la génétique. Donc certains patients vont avoir des enzymes plus actives que d'autres. Donc certains patients vont métaboliser des molécules néfastes beaucoup plus vite que d'autres. Donc ces molécules néfastes vont avoir un effet beaucoup moindre chez ces patients-là. Donc vous voyez l'interaction entre les molécules néfastes de l'environnement et la génétique, qui n'est même pas forcément du coup la génétique au niveau de la cellule cancéreuse, mais la génétique globale de l'individu. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de faire des études globales pour ce type d'interaction et qu'on reste très très prudent sur l'association. On associe une consommation avec un type de cancer, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une relation de cause à effet.
Voilà, ça c'est important aussi de le rappeler hein, ouais. À nos auditeurs et que vous n'avez pas de solution miracle non plus. Parce que comme vous le dites, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas de solution miracle. Est-ce que ça rejoint aussi l'idée qu'il n'y a pas de science exacte dans le domaine médical?
Oui, la médecine n'est pas une science, c'est certainement un art, on pourrait le dire. Plus on avance, c'est la question de la médecine et de la science. Hein. Chaque découverte amène à plus de questions qui n'apportent de réponses. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On découvre la complexité de la fonction du corps humain et de l'interaction des différents acteurs les uns par rapport aux autres. Mais on avance quand même, puisque de plus en plus maintenant, dans les études épidémiologiques, on fait rentrer justement la génétique pour pouvoir avoir des interactions et justement essayer de peut-être de répondre à cette question des relations de cause à effet, mais c'est compliqué. Ça n'implique pas que des médecins, ni que des scientifiques. Ça implique aussi beaucoup de mathématiciens et de biostatisticiens, parce qu'on se retrouve devant un nombre de données absolument gigantesques à gérer, et que le chercheur tout seul peut pas faire tout seul dans son équipe. Donc, dont la multidisciplinarité est totalement nécessaire.
Voilà, donc c'est rassurant. L'être humain n'est pas une machine.
Non, et puis c'est pas une machine, c'est peut-être une machine très très complexe, mais à chaque fois c'est une machine différente, c'est bien là la complexité.
Voilà, alors une dernière question avant de faire une pause musicale. Donc professeur Fromont, vous parliez tout à l'heure de cachexie pour les personnes atteintes de cancer. Alors pourquoi est-ce que les personnes de cancer souffrent de cachexie? À quoi c'est dû en fait?
Ah, il y a plusieurs causes à la cachexie. Hein. Certains types de cancers vont être plus cachectisants que d'autres. Par exemple, le pancréas est vraiment un cancer très cachectisant. Il y a le métabolisme de la tumeur hein, qui peut consommer beaucoup d'énergie et de ce fait récupérer l'énergie qui devrait aller à l'hôte et qui va vers le cancer. Il y a également le fait que certains types de cancers vont empêcher les patients de s'alimenter, comme les cancers de la sphère ORL, et qui vont donc entraîner une dénutrition. Et puis, certains traitements, malheureusement, s'ils sont efficaces sur la cellule cancéreuse, vont entraîner des troubles de l'alimentation, comme certaines chimiothérapies, et aussi des modifications du goût, des nausées, tout ça ensemble, tous ces... toutes ces causes vont être responsables de la cachexie.
Merci, professeur Fromont. Alors, je propose que l'on fasse une première pause musicale et nous allons écouter une artiste, je crois, que vous appréciez, Juliette Armanier, Cavalier Seul. Pourquoi vous avez eu envie d'écouter cette chanson ?
Alors, d'abord, j'aime bien l'artiste, effectivement, mais c'est surtout pour montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut pas faire cavalier seul dans la médecine ni dans la recherche. Il faut travailler avec les autres. Il faut être multidisciplinaire. S'il y a vraiment... quelque chose à retenir, c'est cela.
Alors écoutons Cavalier Seul, Juliette Armanet, sur Radio Campus Tours, c'est La Méridienne. Juliette Armanet sur Radio Campus Tours, vous écoutez toujours La Méridienne. Je suis en studio avec le professeur Gaël Fromont et Quentin Rochou, notre stagiaire de 3e. Alors professeur Fromont, voilà, cette transition musicale était toute trouvée pour parler plus en détail peut-être de votre équipe INSERM. Alors qui la compose et qui fait quoi ?
Alors tout d'abord, ce n'est pas mon équipe, hein. Je l'ai intégré en tant qu'enseignant-chercheur et depuis 2 ans, je suis directeur adjointe en épaulant le directeur de l'unité qui est le professeur Christophe Vandier, qui est enseignant-chercheur en sciences. Donc c'est une équipe qui comprend des chercheurs et enseignants-chercheurs. On est globalement de 3 types. Il y a les chercheurs purs, ceux qui ne font que de la recherche, qui sont en général INSERM, hein, mais également CHU. Ensuite, il y a les enseignants-chercheurs qui font de la recherche au sein de l'unité et qui ont une activité d'enseignement soit à la faculté de sciences, soit à la faculté de pharmacie, soit à l'IUT. Et puis, il y a les médecins enseignants-chercheurs qui sont médecins, hein, en général universitaires au CHRU de Tours, qui ont une activité d'enseignement à la faculté de médecine et qui ont une activité de recherche au sein de l'U1069. Donc voilà pour les chercheurs, trois types. Nous, dans nos équipes, nous avons également des techniciens, des ingénieurs, un secrétariat, et tout ce monde fonctionne de façon extrêmement complémentaire, hein, et on a chacun besoin les uns des autres. Hein, c'est absolument majeur, cette multidisciplinarité à la fois aussi entre médecins et chercheurs, hein, dans notre unité, puisque c'est une unité INSERM quand même. Voilà, il y a également des étudiants. Alors, des étudiants, on en a beaucoup, hein, et de plusieurs types, hein, surtout des étudiants en sciences, hein, donc ce sont des étudiants qui sont rentrés dans un parcours scientifique, hein, licence, master, thèse. Donc, on peut avoir les trois types de stages, hein, dont notamment des thésards, et puis des étudiants en sciences qui ont terminé leur thèse et qui font des stages dans les unités de recherche, c'est ce qu'on appelle les post-doctorants. Il n'y a pas que des scientifiques, nous avons également des médecins qui font leur master 2 ou leur thèse de science au sein de l'unité. Et c'est très important, cette association entre les deux, puisque chacun va apporter quelque chose à l'autre. Hein. En fait, le médecin va apporter ses questions cliniques, ses problématiques cliniques. Voilà, tel ou tel type de cancer, j'ai du mal à diagnostiquer. Tel ou tel type de patient, j'ai du mal à le soigner. Je comprends pas pourquoi tel ou tel traitement va être efficace chez certains et pas efficace chez les autres. Je ne comprends pas pourquoi tel ou tel traitement va avoir beaucoup d'effets secondaires chez les uns, néfastes, hein, et pas d'effets secondaires chez les autres. Donc ça, c'est des questions cliniques. Et le médecin va apporter sa question clinique dans l'unité et lui-même, avec les chercheurs, va essayer de répondre à cette question clinique. Donc ça, c'est très important. C'est ça, la recherche translationnelle. On va de la clinique vers la science fondamentale. Mais on peut également aller dans l'autre sens. Par exemple, un chercheur va trouver que dans tel ou tel type de cancer qui va être agressif, au niveau de certaines cellules, il va y avoir des molécules qui sont pas exprimées de la même façon. Mais ça, c'est dans des boîtes de pétri, c'est dans des cellules. Il va se dire, mais est-ce que ça va avoir un sens chez l'homme? Est-ce que chez des hommes ou des femmes qui ont des cancers plus agressifs que d'autres, est-ce qu'on va retrouver ce type de molécules plus exprimées que d'autres? Donc, est-ce que ça a un sens de le chercher pour prédire l'agressivité, par exemple? Et ça, on va dans l'autre sens. On va du fondamental vers la clinique. Et c'est cet aller-retour persistant qui fait vraiment le lit de notre activité dans notre unité INSERM. Et l'expertise des médecins associée à l'expertise des scientifiques.
Voulez-vous préciser quel est le rôle des ingénieurs de recherche et peut-être des techniciens?
Alors, les ingénieurs de recherche sont plus spécialisés dans une technicité d'expertise, hein, pour tel ou tel type d'analyse, par exemple, au sein de l'unité. Notre expertise, c'est l'analyse des lipides. Et nous avons une ingénieure de recherche, qui est Michèle Pinault, qui est responsable du fonctionnement de cette plateforme, qui est extrêmement complexe, hein, au niveau technique. Et cette plateforme travaille pour les gens de notre unité, mais on collabore aussi énormément avec d'autres chercheurs ailleurs sur le site de Tours, mais aussi au niveau national, grâce à cette expertise. Les techniciens ont une expertise technique sur tel ou tel type d'analyse, un technicien notamment en biochimie des lipides. Il y a des techniciens qui vont plus travailler sur de la culture des cellules, d'autres beaucoup plus sur l'analyse des prélèvements humains, donc en anatomie et cytologie pathologique. Tout ça, c'est une expertise commune, avec chacun son rôle dans le fonctionnement de la machine, quelque part.
Voilà, donc là on comprend bien en fait comment est structurée votre équipe et comment elle fonctionne, hein, que chacun a besoin en fait des savoirs des autres participants, disons. Et il y a aussi des doctorants, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Combien il y a à peu près de doctorants dans cette unité et comment ils sont on ne peut pas dire que c'est un casting, mais enfin, comment on devient doctorant dans votre unité de recherche ?
Globalement, là, je peux pas vous donner chiffre exact parce que ça bouge tout le temps. Hein. Les doctorants passent leur thèse. En général, c'est 3 ans. Ça peut être 4 ans. On a eu jusqu'à une dizaine de doctorants. Globalement, c'est entre 6 et 10. Un doctorant, c'est quelqu'un qui va travailler 3 ans à temps plein sur de la recherche. Après son master 2. Hein. Donc c'est le système universitaire, licence, master, thèse. Donc après avoir passé son master 1 puis son master 2, le doctorant va rechercher un sujet de thèse. Donc à Tours, ça se passe de la façon suivante. C'est pas toujours le même processus hein, sur tous les sites, mais les chercheurs vont écrire un sujet de thèse pour un doctorant qu'ils ne connaissent pas encore. Et vont proposer ce sujet de thèse pour être financé, puisqu'il faut bien que le doctorant puisse vivre hein, pendant ces 3 ans. Donc il va falloir trouver un financement pour le doctorant, et pas du tout, pas spécialement pour le fonctionnement de sa recherche, hein, pour lui, pour le doctorant, pour son salaire en fait. Et ce sujet de thèse va être évalué par d'autres chercheurs hein, sur le site de Tours et avec globalement un vote et un financement ou pas du sujet de thèse. Une fois que le sujet de thèse est financé, on va alors chercher des doctorants, on va faire un appel d'offres pour que les doctorants puissent candidater sur ce sujet de thèse. Le responsable de la thèse, parmi toutes les candidatures qu'il va avoir reçues, va en choisir, en général c'est 3 candidats, qui vont être auditionnés, pas que par le futur directeur de thèse, mais également par différents membres de l'école doctorale auquel on appartient, et qui va choisir, avec l'accord bien entendu du directeur de thèse, entre les 3 candidats. Donc globalement, voilà comment se passe ce processus d'entrée en thèse de sciences ici à Tours.
Voilà, parce que quand même c'est 3 ou 4 ans d'un travail dense sur un sujet, donc on comprend oui. bien qu'il est nécessaire se tourner vers un candidat qui de fait est prêt à s'investir sur un sujet particulier.
Tout à fait. Alors, ce qui se passe quand même relativement souvent, mais pas toujours, ça peut être un étudiant qu'on a déjà eu en stage de Master 2, donc on connaît, et qui aurait déjà commencé à travailler sur le sujet un peu avant de pouvoir débuter vraiment sa thèse.
Alors, est-ce qu'il y a peut-être des thèses en cours qui vont bientôt être présentées, dont vous voudriez dire un mot ?
Moi, avec une autre chercheuse de l'unité, qui est Karine Maéo, hein, en général, nous, on co-encadre. Moi, je suis médecin enseignant-chercheur. Elle est enseignant-chercheur en pharmacie. Et on fait un binôme. Je trouve que c'est bien d'avoir un binôme chercheur-médecin, parce que là, pour le coup, la complémentarité dont on a parlé tout à l'heure, elle existe pour de vrai. Et nous encadrons une thésarde, mais qui n'est pour l'instant qu'à sa deuxième année de thèse, donc qui n'est pas prête de soutenir. Le professeur Vendier, qui est le directeur de l'unité, encadre une doctorante hein, qui va soutenir sa thèse bientôt, en 2020.
Et alors, ces thèses, je vous embête, pardon, mais est-ce que vous voulez nous dire quel est le sujet en fait,
Je peux vous dire le sujet, je peux vous parler de la thésarde que j'encadre,
avec plaisir. Hein,
éventuellement. Donc, moi, mon thème, bien entendu, dans cette unité, comme d'ailleurs au CHU, hein, mon expertise principale, c'est le cancer de prostate. Donc, sur la deuxième thèse que nous co-encadrons hein, sur le cancer de prostate à l'UDIS 69. Et globalement, le thème principal, hein, c'est l'impact des lipides sur l'agressivité du cancer prostatique. Et cette agressivité qui peut être liée d'ailleurs aux modifications du cancer en fonction de certains traitements, notamment de certains traitements hormonaux. Le troisième mot-clé que je n'ai pas cité non plus, j'ai parlé de lipides, j'ai parlé de cancer. Nous avons également une expertise hein, au sein de l'unité sur tous les canaux qui sont tous ces systèmes de communication entre la cellule tumorale et son micro-environnement quelque part, et notamment les canaux qui font entrer ou sortir du calcium de la cellule tumorale. Donc on travaille sur l'interaction entre lipides, signalisation calcique dans la cellule tumorale et ici le cancer de prostate.
Voilà, et alors juste une réflexion que je me fais, professeur Fromont, en vous écoutant, vous nous avez rappelé hein, qu'il y a un ingénieur d'études qui s'appelle Madame Michèle Pinault, vous nous avez parlé de deux doctorantes, voilà, que vous co-encadrez ce projet de thèse avec une collègue qui est une femme aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans cette unité INSERM. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une rareté qu'il y ait autant de femmes dans un domaine de recherche ou pas ?
Alors, bah, je vous avoue que j'ai pas fait le compte de la parité parce que bon, ça se passe quand même sans qu'on ait besoin de ce genre de choses. C'est vrai que pour la prostate, c'est pratique d'être une femme parce qu'on va pas se projeter. C'est bien, on peut garder une certaine distance. Et ça, c'est un peu un joke, mais en tout cas, c'est vrai qu'au même au niveau médical, hein, on se rend compte, il y a encore quelques années, par rapport aux cliniciens, notamment aux urologues, il y avait pratiquement que des hommes hein, dans ce métier. Et maintenant, on voit de plus en plus arriver des femmes dans cette chirurgie particulière. D'une part, parce qu'il y a un peu plus quand même initialement de femmes hein, qui se lancent dans les études de médecine que d'hommes maintenant. Et puis, qu'il y a certaines spécialités qui étaient attribuées plus particulièrement aux hommes avant et qui maintenant deviennent un peu plus mixtes. Par contre, c'est l'inverse en pathologie, en anapath. Hein, c'est une spécialité qui était auparavant quasiment que féminine et dans laquelle on voit arriver maintenant progressivement de plus en plus de garçons. Donc c'est très bien, hein, c'est aussi quelque part la différence et la multidisciplinarité, une vision un petit peu quand même différente des choses. Et c'est très bien.
Tant mieux. Alors peut-être qu'il y aura une thèse sur le sujet dans quelques décennies. Quelqu'un pourrait étudier ce changement. Alors avant de s'intéresser plus précisément au financement de la recherche, je propose qu'on écoute une nouvelle musique et vous avez choisi Salif Keita, La Différence. Vous voulez nous dire pourquoi vous avez eu envie de nous faire écouter cette musique ?
Je viens d'en parler, en fait La Différence c'est la différence qui nourrit. Ça peut être un petit peu compliqué hein, parce que quelqu'un qui est différent va parler un autre langage, donc il faut apprendre à lui apprendre le nôtre, à comprendre le sien, mais arriver à se nourrir un petit peu de cette différence qu'on a entre médecins, chercheurs, entre différents types de chercheurs. On n'a pas parlé des sciences humaines, mais il a toute sa place dans une unité qui est associée à l'alimentation, bien entendu.
Alors nous écoutons Salif Keita, La Différence sur Radio Campus Tour.
I am black, my skin is white. I am what I am, in the difference that is me. Mm-hmm.
C'était Salif Keita, La Différence sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne et mon invité est toujours le professeur Gaël Fromont. Il y a toujours avec nous en studio Quentin Rochou, notre stagiaire de 3e. Alors professeur Fromont, là il était temps d'en venir au financement de la recherche. Alors comment fonctionne votre unité INSERM ? Qui vous donne des sous ?
Ben, elle fonctionne globalement comme toutes les unités et on en arrive au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Hein. On a parlé tout à l'heure du financement des thésards. Donc, je vous ai expliqué un petit peu la façon dont on recrutait ces thésards. Et puis après, il faut acheter du consommable, il faut du matériel, il faut... Donc ça, c'est le financement de la recherche elle-même. Nous sommes... à double tutelle, c'est-à-dire l'INSERM et l'Université de Tours. Et de ce fait, nous recevons une dotation hein, des deux structures, qui est fort appréciable, mais qui en elle seule ne suffit pas, bien entendu, pour l'ensemble des projets de recherche qu'on souhaite développer dans l'unité. Donc, ben, comme tout chercheur, hein, nous répondons à des appels d'offres, que ce soit des appels d'offres nationaux. Pour le cancer, la plupart des appels d'offres sont quand même... paraissent sous l'égide de l'INCa, qui est l'Institut National du Cancer. Des appels d'offres interrégionaux ou régionaux, et à ce titre, on peut citer le Cancéropole Grand Ouest, hein, avec lequel nous travaillons énormément, qui associe les trois régions, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire. Et puis les appels d'offres régionaux, à ce titre, nous sommes particulièrement aidés, je les remercie, par la région Centre-Val de Loire, qui chaque année sort des appels d'offres auxquels nous répondons. Et puis à un niveau également interrégional, hein, nous répondons également aux appels d'offres interrégionaux de la Ligue nationale contre le cancer ou interrégionale contre le cancer, qui nous aide beaucoup, sur lequel on a pu compter ces dernières années pour être financé pour un ou deux projets chaque année. Et c'est vraiment un apport extrêmement précieux pour notre unité. Et je les en remercie en mon nom et en nom de l'ensemble de l'unité, hein, notamment Monsieur Blanchard, son président.
Qu'allez-vous faire suite à la récompense que vous a offerte la Ligue contre le cancer ?
Ah ben d'abord, c'est pas une récompense, c'était l'année dernière. Hein. C'est un financement qui permet justement de travailler sur un projet de recherche pendant un an. Donc maintenant, c'est pratiquement terminé. Hein. Nous avons travaillé sur ce projet pour lequel la Ligue nous a financé l'année dernière et avec des résultats très intéressants. Le but in fine étant d'arriver à publier ces résultats pour avoir une valorisation de notre activité de recherche et en mentionnant bien entendu que ce travail a pu être effectué grâce à l'apport financier de la Ligue contre le cancer.
Voilà, donc c'est un système annuel, hein, vous venez de le dire, donc ça veut dire qu'on a un an pour utiliser les fonds alloués.
Pour ce type d'appel d'offres, oui, voilà. Tous ne sont pas que sur une année, hein, ça peut être sur plusieurs années, mais l'appel d'offres interrégional est effectivement sur un an.
Voilà, donc peut-être aussi pour qu'on se rende compte, hein, le rapport au temps de la recherche, parce que vous expliquez donc qu'il y a des appels d'offres, donc il y a le temps de répondre à un appel d'offres, le temps d'évaluer les candidatures par le financeur. Et ensuite, une fois qu'on a été retenu, l'argent n'arrive pas tout de suite.
Oui, il y a une certaine inertie, on va dire. Et ça peut être un petit peu problématique en France. Hein, donc c'est national, hein, ça ne nous concerne pas que nous. Mais on a parfois l'impression de passer plus de temps à écrire des projets de recherche, parce qu'il y a donc... 9 sur 10 ne seront pas financés, en fait, plutôt qu'à faire de la recherche à proprement parler. C'est vrai que c'est un problème. La concurrence est rude, quelque part tant mieux, hein, puisque tous les projets sont évalués par des évaluateurs qui sont bien entendu complètement en dehors de notre... du champ local de la recherche, mais il y a concurrence, c'est rude, et notamment pour les appels d'offres nationaux, c'est un projet sur 10 de financer, donc c'est compliqué.
Alors où va-t-on chercher des fonds ? Est-ce qu'on met en place des partenariats internationaux aussi, si on peine à trouver des financements en France ?
on ne peine pas à trouver des financements en France particulièrement, mais c'est long, hein, le temps d'écrire l'appel d'offres, parce que finalement, quelque part, on va quand même... Si le projet est bon, hein, après si le projet est pas bon, ma foi, si le projet est bon, on sera financé, mais le délai, le temps de l'écrire, que le projet soit évalué, d'avoir la réponse et ensuite le temps que le financement arrive, puisse être vraiment utilisé pour de bon, il peut se passer un an et demi, et c'est vraiment une inertie qui est un peu compliquée.
Et alors sinon, donc vous... Comment dire, vous travaillez aussi avec des chercheurs à l'étranger, il y a des coopérations internationales pour votre unité de recherche. Alors ces coopérations, est-ce qu'elles consistent en des échanges de compétences? Est-ce que c'est un échange de chercheurs ou est-ce que c'est aussi des financements?
C'est les deux, hein, parce qu'il y a des financements qui sont dédiés, notamment des financements européens, hein, qui peuvent être dédiés à des projets qui vont avoir des équipes... un petit peu partout en Europe. Il y a également des collaborations d'expertise, hein, sur des expertises techniques bien particulières, des échanges d'étudiants, ça c'est extrêmement important, hein, c'est ce qu'on fait actuellement avec un chercheur en Irlande, des thésards qui vont une semaine, deux semaines là-bas, nous on reçoit les leurs, c'est tout cet échange de chercheurs avec des habitudes de recherche peut-être un petit peu différentes qui est également extrêmement enrichissant.
Et alors quand même, malheureusement, cette émission touche déjà à sa fin. Peut-être une minute à agenda. Est-ce qu'il y a des événements particuliers à venir pour votre unité INSERM?
Alors, il y a toujours des événements, hein, bien entendu. Vous avez parlé des soutenances de thèse. On est toujours au début ou à la fin d'un projet. On en écrit un, on en termine un autre. Quand on l'a terminé, il faut écrire un article. Et après, on va se lancer dans la complexité de la publication scientifique, hein, qui est encore une autre partie de notre travail. Il faut savoir aussi qu'une unité INSERM n'est pas labellisée à vie et que déjà maintenant, hein, pour dans 2 ans, 3 ans, on va devoir commencer à penser à la prochaine labellisation. Donc finalement, il se passe toujours quelque chose dans une unité INSERM-UMR.
Alors je pensais aussi au grand public. Est-ce qu'il y a des événements qui s'adressent au grand public que votre unité INSERM peut mettre en place?
Alors effectivement, hein, alors l'unité INSERM ou au niveau clinique, hein, parce qu'il y a aussi les deux. Nous participons à la fête de la science, hein, chaque année, dont interaction avec le grand public, des jeunes, des étudiants, qui est une manifestation annuelle, hein, qui a lieu à la mairie de Tours. Et puis, à titre personnel, comme je suis médecin, j'interagis aussi avec un certain nombre d'associations de patients. C'est également quelque chose d'important, puisque dans les structures comme la Ligue, hein, c'est des structures qui fonctionnent avec les dons, notamment des dons de patients, et c'est extrêmement important que eux, ils puissent avoir un retour sur le travail qu'on fait grâce à leurs dons.
Je vous remercie, professeur Gaëlle Fromont, d'être venu dans cette méridienne qui touche déjà à sa fin. Donc, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'unité INSERM Nutrition, Croissance et Cancer et que cette émission a lieu dans le cadre d'un partenariat avec l'INSERM. Bien sûr, il y a un site internet pour votre unité sur laquelle les auditeurs pourront se rendre pour avoir quelques détails et retrouver des liens vers diverses publications. Alors, on va se quitter avec un choix musical qui est vôtre également. Et vous avez souhaité nous faire écouter Dans l'univers, Nekfeu et Vanessa Paradis. Voilà, donc merci à tous et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos excellents programmes, évidemment.
Je vous remercie.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y a des milliards de vies. sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu.